France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit quelqu'un qui d'ailleurs est en train de s'ambiancer là, sur le générique.
Oh, ce son.
Quelqu'un que vous avez forcément déjà vu ou entendu à la radio, à la télé, sur scène, sur les réseaux. Camille Combal est partout. Camille, c'est une voix, un rythme, une énergie, mais surtout un sens très particulier du jeu. Et en ce moment, il joue beaucoup, il joue avec le concept même de la télévision, avec qui sera le plus nul diffusé sur TF1. Il joue avec la scène, dans La Lettre, ce spectacle, aux côtés entre autres de Maxime Gasteuil. Et puis il joue à la radio tous les jours dans son émission quotidienne sur Énergie. Derrière tout ça, il y a quelque chose assez rare, un animateur devenu une vraie figure pop qui navigue entre les générations, les formats et les plateformes sans jamais perdre ce qui fait sa signature, cette impression que tout est sérieux, sauf lui. Ce soir, on va parler de ce que ça veut dire d'être Camille Combal en 2006, comment on reste drôle quand on est partout, comment on réinvente le divertissement à l'heure des réseaux et comment on continue à jouer quand on est devenu, eh oui, un pilier du paysage médiatique. Camille Combal est avec nous à La Régulière.
France Inter. Régulière. Mehdi Maizi.
Comment ça va, Camille ?
Comment ça va, Mehdi ?
Moi, très bien.
Ça va bien ?
Ouais, franchement, ouais.
Ça se voit.
Bon début d'année, bonne année 2025, 2026 commence bien jusqu'à présent.
Ça commence bien. Est-ce que je peux. On peut se tutoyer ?
Ah, par pitié.
Ah, on a le droit. Oui. Est-ce que tu as pris des résolutions ?
Non, jamais.
C'est vrai, tu le fais jamais ?
Non, j'aime pas parce qu'on les tient jamais.
Ouais,
tu vois, on les tient jamais. À part celui...
C'est fou de baisser les bras aussi vite sans sachant que t'auras pas le mental.
Mais je suis lucide. Je suis lucide au moins. Camille, moi je voulais aussi. Je suis très content de te recevoir. Et c'est vrai que, comme je le disais en introduction, tu fais beaucoup de choses.
Peut-être trop, diront certains.
C'est la question que je vais te poser. Est-ce que parfois, t'as déjà eu cette peur, tu sais, de parfois un peu surexposé ou de. Tu sais, quand tu deviens vraiment, tu rentres dans la vie d'autant de personnes, de Français, de Françaises. Est-ce qu'il y a parfois cette peur, tu sais, de lasser les gens ou d'être trop présent?
Tellement.
Ouais.
Tellement. Tu sais, tous les ans, je me dis, attention à l'année de trop. Et peut-être que ça fait 3 ans que c'est l'année de trop, tu vas me le dire. Mais bien sûr, ouais, t'as un truc de lassitude. Et en même temps, quelque chose quand même qui est génial de la chance de faire ce métier, la chance, comme tu dis, de rentrer chez les gens et de les divertir. Je trouve que j'ai rien de, pour moi qui est plus sympathique au monde de se dire on a changé un petit peu le quotidien des gens, quelques minutes, le temps qu'ils ont à nous accorder. Parfois c'est quelques secondes à la radio, parfois c'est quelques minutes à la télé, et de se dire qu'on a pu peut-être un peu leur changer les idées ou en tout cas rentrer dans leur quotidien, c'est un kiff énorme. Donc je partage entre ce kiff et le côté, vas-y, je veux pas vous saouler quand même, mais il est peut-être temps pour moi de partir, monter l'Everest. Comme
mentalité Kaizen, évidemment. Non, mais alors, je parle pas de partir, mais tu sais, je pense qu'il y a toujours quelque chose qui est assez particulier quand on a aussi un profil comme toi, qui n'était pas forcément prédestiné à faire ce que tu fais. C'est dur aussi de dire non. Quand on a des projets qui sont cool, il y a toujours ce truc de, je pense, d'avoir envie de profiter de ça, parce que même si, d'un point de vue extérieur, tout a l'air de marcher pour toi, toi, j'imagine que tu dis, peut-être que demain, ça peut s'arrêter, donc je dois faire le maximum de choses avant que peut-être ça s'arrête. Il y a toujours quelque chose comme ça, de vouloir profiter aussi à fond de ce qu'on a, qui sont quand même des métiers passion aussi.
Il y a le côté passion, et puis tu sais, je pense que ça va faire écho à plein de gens qui nous écoutent là. Moi, je suis un petit provincial, mais quand on dit provincial, je suis même pas de la banlieue de Grenoble, je suis de la campagne, du genre vraiment, il y a plus de vaches que d'habitants, mais quand je te dis c'est véritable,
c'est vrai.
On est vraiment, je pense que dans mon village à l'époque, on devait être peut-être 350 habitants, tu vois, on est de la campagne ultime, c'est-à-dire une station de ski, mais quand il n'y a pas le ski, c'est...
Il n'y a rien.
Il n'y a rien, c'est même plus une station, il n'y a plus rien. Et donc, de là d'où je viens, du milieu dans lequel je viens, je suis petit fils d'agriculteur, fils d'un petit commerçant, deux petits commerçants de province, c'est vrai que quand on a la chance d'avoir son métier passion et puis la chance d'avoir plein de beaux projets, je suis tellement de reconnaissance pour ce qu'on nous propose que parfois, oui, ça vraiment je l'ai, j'ai du mal à dire non. J'ai fait une émission de billes, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment donné, quand t'as animé une émission où des gars font une compète de billes sur TF1, c'est vraiment, tu dis trop oui. Et à un moment donné, vraiment, si là t'as pas dit non, c'est tu diras jamais non.
Est-ce que, quand t'étais justement ce jeune gars, dans quelle ville où t'as grandi?
J'ai grandi dans une station de ski que j'aime d'amour, qui s'appelle Les Ors. Pour faire simple, alors c'est simple. Quand on s'intéresse un peu, on me dit d'où tu viens, je dis Aix-en-Provence. Parce qu'en gros, c'est les stations du Pays d'Aix, c'est pas loin d'Aix. Et c'est pas vrai, je viens pas d'Aix, ma mère est aixoise, mais moi non, je viens des Aures. Et après les gens disent, mais où exactement? Là tu dis Serre Chevalier, parce que les gens ils situent Serre Chevalier. Sauf que mes potes là-bas, ils arrêtent pas de me dire, arrête de faire le bourgeois, t'es pas du tout de Sercheux. Et après quand les gens connaissent vraiment le coin, je dis les Aures, okay. C'est une petite station, mais ravissante, entre Serre Chevalier, Vars, Risoul, dans ce coin-là, Alpes du Sud.
Quand t'étais petit justement là-bas, qui est-ce que tu regardais ou t'écoutais? C'était qui tes héros, tes modèles, peut-être à la radio, à la télévision? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont donné envie de faire ce métier quand t'étais vraiment plus jeune?
Ah, j'ai pas de gars.
T'as pas forcément grandi avec ça, avec une ou des références précises?
Déjà, j'ai grandi, donc on est dans les années 90, ouais. En province, en montagne. Donc déjà, on avait jusqu'à peut-être mes 14 ans, on avait réellement 3 chaînes de télé. On captait même pas la 6. Un jour, mon père est arrivé avec la parabole, mon cerveau a disjoncté. Avec mon frère, on a fait... Mon père est monté sur le balcon, il a scotché la parabole, bien sûr.
Un grand moment, ça.
Un grand moment, inconnu. Il a scotché la parabole et tout d'un coup m'est arrivé Canal+, ouais. Le câble, n'importe quoi.
Ouais, ouais. Épiphanie, là, tu découvres autre chose, ouais.
Voilà, donc un peu plus tard. Donc, je ne pourrais pas dire que j'ai eu des modèles dans ce que j'ai fait en tous les cas. Les souvenirs que j'ai, les premières choses que je courais à la fin du lycée pour aller voir à l'école, après l'école, excuse-moi, c'est vraiment la grosse émission de KDO. À l'époque,
sur Comédie. Ouais.
Ils animaient, il y a eu
Dominique Farrugia.
Ouais. Et il a animé, et à un moment donné, il a mis KDO, ouais. Animateur de cette émission-là. Et je me revois courir quand le bus rentrait après l'école pour ne pas rater la fin de l'émission. Je n'avais pas de magnétoscope, donc pour ne pas rater la fin de l'émission. Et ça a été pour moi mon éveil. C'est, je pense que ce que j'ai aimé, un peu plus tard le Morning Live, ouais. Un peu plus tard le Burger Quiz, en fait, c'est de me dire... C'est fou en fait, on peut vraiment s'amuser à la télé. Mmh. Moi, le côté télé, moi j'ai jamais rêvé d'animer des grands primes, c'était pas du tout un truc que j'avais. Je regardais pas d'ailleurs, mes parents regardaient pas énormément la télé. Mais c'est de me dire, vous imaginez ce qu'on peut faire, on peut mettre des perruques, on peut faire un sketch, 3 sketchs avec la même perruque et faire rigoler les gens. Et c'est ça qui m'a fait monter à Paris, c'est ça que je mourais d'envie de faire. Quoi.
Parce que c'est ça la grosse émission, là, c'est des sketchs en direct, ouais. Etc. Et il y avait aussi, alors je sais pas si t'es d'accord, mais moi le souvenir que j'en ai de cette émission, c'est aussi peut-être ce qui se rapproche le plus de ce qui pourrait être une forme de late show. Quelque chose qui est très présent aux États-Unis, c'est-à-dire vraiment des animateurs souvent très charismatiques, qui peuvent danser, qui peuvent faire des sketchs, etc. Et j'ai ce sentiment, c'est que le late show, c'est un peu un fantasme qu'on a en France de le faire, tu vois. Tout le monde veut être un peu Jimmy Fallon, mais c'est très compliqué. Est-ce que toi, t'as ça aussi? Parce que moi, j'ai le sentiment que t'es peut-être un de ceux qui pourrait le plus faire une forme de show à l'américaine aussi aujourd'hui. Mais en fait, Jimmy Fallon, ce genre de personne, John Stewart, sont des gens que t'as regardé après ou que tu regardes
bien
aujourd'hui.
Ouais. J'adore leur travail. Je regarde, j'ai même eu l'occasion de rencontrer Jimmy Fallon et de le voir travailler et tout. C'était génial. Mais il faut pas oublier un truc, selon moi, c'est que ça, le late show, les gens aux États-Unis, ils ont grandi avec ça. Ouais. Les parents des gens dont on parle ont grandi avec ça. Les grands-parents avaient aussi. Ça fait partie du patrimoine historique des États-Unis d'avoir plusieurs late shows.
Exactement.
Sur tous les gros networks américains. Nous, on n'a pas ça. La table en bois avec le mug sur la table, on veut tous faire ça. Mais en vrai,
tout le monde veut faire ça. Ouais,
mais je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas des rêves qu'on a. Ce qui, selon moi, avait bien marché avec KDO, la grosse émission, et le travail de Dominique Farrugia, c'est que oui, on avait mis un mug en bois. On avait mis un bureau en bois, mais. Il y avait des vrais gros sketchs, ouais. Des sketchs potaches, du français, quoi, de notre culture à nous. Et ça, c'est bien. À trop vouloir faire les Américains, je ne suis pas convaincu qu'on ait spécialement envie de ça. On a tellement de savoir-faire, nous. On a tellement moyen de faire rire avec nos codes à nous qu'il faut y aller à fond. Quoi.
Moi, j'ai aussi le sentiment, par contre, que dans tes influences aussi, enfin, je ne sais pas si c'est une influence, mais que tu me sembles être très connecté aussi avec ce qui se passe sur YouTube, notamment. Enfin, on te voit parfois invité sur des chaînes YouTube. Et j'ai même le sentiment que c'est des choses aussi que tu vas intégrer même dans ta manière de présenter, d'animer, que ce soit à la radio ou à la télévision, que tu es aussi en prise avec ça, quand on te voit aussi bien avec AmixM ou enfin, plein d'autres, hein, j'en ai plein en tête. C'est quelque chose aussi qui t'alimente toi-même dans ta manière de concevoir tes émissions.
Mais parce que, en vrai, je ne sais pas si ça m'aide à faire mes émissions, mais je prends beaucoup de plaisir à aller avec eux. C'est vraiment des gens que j'adore. Tu as cité AmixM, Thomas Dezer qui est avec ouais. Lui. C'est des gars que je trouve trop forts. Quelqu'un comme Squeezie, qui est tellement brillant dans ce qu'il fait, mais même en dehors, faut quand même. Tu passes une heure avec Squeezie, tu es bluffé de l'intelligence et de la finesse d'un Squeezie. Et je pourrais en citer plein d'autres que j'ai la chance de croiser, de rencontrer. Et je trouve ça génial qu'il y ait ce tuyau-là, cette façon de pouvoir faire du div. Et ils sont libres et ils sont créatifs. Mais attends, pardonne-moi, les formats qu'ils créent semaine après semaine. Donc, je ne sais pas si je l'intègre à mes émissions. Mais en tout cas, dès qu'il y a besoin, je prends grand plaisir à aller avec eux, à donner de la force, à partager de la force et à passer un bon moment. Parce que vraiment, va avec AmixM. faut aller à Angers quand même. Hein. Le Fauquet.
C'est vrai qu'il est d'Angers, Amixem. Donc, un gros créateur de contenu.
Mais il crée, mais il a deux hangars là-bas avec des studios. Pendant qu'il tourne une vidéo dans un studio, il a un autre studio qui est en train de se monter. Il est créatif de dingue. Il a toute une équipe. Il emploie plein de gens à Angers. C'est un mec génial. Mais tu vas tourner avec Amixem, tu prends un train, tu pars à Angers, mon gars.
Mais j'ai le sentiment aussi que même si toi, aujourd'hui, tu es un visage et une voix de médias, on va dire mainstream, qu'il n'y a pas de hiérarchie chez toi entre les différents canaux. Que tu vois, tu pourrais créer une chaîne YouTube demain. Enfin, j'ai le sentiment que tu mets un peu. Que tu t'alimentes de tout ça en fait, et que tu t'es intéressé par tous ces différents canaux en tant que toi, animateur, mais aussi consommateur.
Bah moi j'espère humblement garder toute ma vie le côté plus artiste que business. Et donc, moi ce que j'aime c'est créer, c'est trouver des idées, c'est s'amuser, passer un bon moment tous ensemble autour de quelque chose, et en vrai, tous les tuyaux sont géniaux. Sur Twitch, notamment, il y a une liberté, le fait de pouvoir réagir tout de suite avec la commu, le chat, c'est quand même extraordinaire. C'est Et je suis également hyper content d'aller participer avec plein de gars qui m'invitent, d'aller faire des live Twitch. En effet, je hiérarchise pas, et je pense même d'ailleurs que la créativité aujourd'hui, elle est quand même vraiment sur YouTube, puisque les créateurs ont directement la main sur leur contenu.
Ouais,
c'est ça qui est formidable. Ils se lèvent un matin, ils disent tiens, j'aimerais bien faire ça. Deux semaines après, le temps de monter tout, bah, ils créent un programme qu'ils ont dans la tête. C'est formidable.
Ouais. Je propose qu'on écoute un morceau.
Arrête-toi.
Moi aussi.
Oh là là.
Et un morceau de quelqu'un que tu connais, Aya Nakamura.
Ah, je l'adore. C'est ma queen. Hein.
Est-ce que c'est pas notre queen?
Je l'aime trop, je l'aime trop.
Ouais, t'avais fait plusieurs, notamment le carpool karaoké.
On a fait le carpool
avec elle.
Exactement, on a fait le carpool karaoké. Je l'ai aussi vu récemment. Bref, vraiment, c'est quelqu'un que j'adore. Elle est, en vrai, elle est d'une rapidité. Tu l'as reçue ici?
Pas ici, mais j'ai déjà reçu dans le passé sur notre émission.
Il
ouais.
Y a plus drôle que Aya?
Non, elle est drôle, elle est très naturelle surtout.
Ah, elle est
et c'est vrai que je pense qu'elle peut parfois dégager, moi c'est ce qu'elle m'avait dit en émission, parfois une image de femme assez froide, etc. Parce que je pense qu'elle impressionne les gens, alors qu'elle est extrêmement simple, naturelle et effectivement drôle. Ouais.
Elle est simple, naturelle, elle s'assume. C'est peut-être ça qui dérange aussi parfois. C'est elle est telle qu'elle est, on l'aime pas. Elle est naturelle.
Exactement.
100%, et moi c'est pour ça que je l'aime trop.
Bon, on écoute le morceau 10 mois, en featuring avec Chensi, qui est extrait de son tout dernier album.
Ton avis, j'en fais mon goûteux. J'ai pas vibré dans cette aventure. Non. Quand je voulais, tu faisais de l'indiscours. Tu continuais en vrai, t'as tout gâché. J'attends pas de toi ton autorisation. Qu'est-ce que tu racontes entre nous, je coupe le réseau. Garde la même énergie. S'il te plaît, oui, cette énergie. Mon mec ou mon ennemi. D'après tes actes, mon ennemi. Je me rappelle quand tu bombais avec moi. Je le constate, je dormais avec le diable. Tu te rends compte que maintenant j'ai trop d'aura. Je n'ai pas la langue dans ma bouche.
Just for you. No matter what you say, I'll do. Look at all the things I do. I give you loyalty and that's my truth. But it's never enough for you. Now baby, who hurt you? Who hurt you? Don't forget that I've been hurt too. What's the reason why you can't keep love? Got you believing everything seized up. Who hurt you? Hurt you? Don't feel it right, not a one-time thing. Easy with time, but it's so hard.
Don't feel it right, don't feel it right. Don't feel it right, not a one-time thing. Don't feel it right, not a one-time thing. Don't feel it right, not a one-time thing.
Keep that fame, keep that fame.
C'était la reine de France, Aya Nakamura, avec Chensi pour le morceau « Dis-moi ».
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Nous sommes avec Camille Combal jusque 23h. Et Camille, avant de continuer, bien sûr, à parler de toi et de ton actualité, car il y a des choses, justement, qui arrivent, j'aimerais te faire un petit quiz. Ça s'appelle ça le quiz des apparences. Je dis des choses sur Camille Combal, tu me dis si elles sont vraies ou fausses.
Oh, wow.
Mais,
ok.
Non, mais c'est surtout, on a envie de te connaître davantage.
Bien sûr.
Alors, Camille Combal.
C'est faux. Pardon. Trop vite.
C'est le mec sympa que tout le monde aimerait avoir comme pote. Est-ce que tu as le sentiment de dégager ça publiquement?
Je saurais pas te dire, mais t'es pas le. Enfin, je l'ai déjà lu, le côté, on aimerait bien l'avoir comme pote. Alors que si tu savais mes potes, comment ils me calent pas, mais ils me calculent pas. Genre là, j'essaie d'appeler mon pote Angelo depuis ce matin, ça fait 3 fois que je l'appelle, il me décroche même pas. Donc peut-être.
Mais je pense que tu dégages ça, ce côté, on a envie de traîner avec lui.
Bah écoute, franchement, si c'est le cas, en tout cas, traînez avec moi, n'hésitez pas. Et les auditeurs de France Inter, arrêtez-moi dans la rue et dites-moi. Parce que la plupart du temps, vraiment, la plupart du temps, je me fais vraiment yesh dans ma vie. Donc n'hésitez pas. Ah ouais,
t'as l'impression, parce que d'un point de vue extérieur, tu fais énormément de choses, t'as l'impression d'avoir une vie très tranquille, très normale.
Ah, j'ai la vie la plus normale et je l'adore. Hein. Je la revendique. En vrai, quand je rigole, je m'ennuie. J'aime bien l'ennui. J'aime bien tout ça, mais j'ai une vie vraiment. Très, très, très normale.
Tu fais quoi le week-end?
Ah, tu veux ça, par exemple, le week-end qui vient de s'écouler là, donc je ne fais 100% que m'occuper de mon fils, donc ça peut être un coup de cirque. Après, il y a une balade, après il veut faire du vélo, une fois qu'il est sur le vélo, il fait 10 mètres, ah non, en fait je veux la trottie, tu repars chercher la trottie, 10 mètres en trottie, ah, en fait j'aimais bien le vélo. Et on a fait un truc fou, c'est que j'ai voulu l'amener voir un ballet. Donc je suis allé voir Casse-Noisette de Benjamin Millepied et donc quand même bon tu
il a quel âge si c'est pas un du tout
il a 4 ans
c'est ambitieux quand même
non mais je me dis bon ça va tu vois je pars avec le petit casque où ça fait pas trop de bruit tout le délire je l'amène bam et tu pars le petit taxi t'arrives au truc tu démarres il est comme un fou gars acte 1 démarre un gars qui arrive en collant un gars hein, il arrive en collant il a même pas fini de traverser la Seine mon fils pleurait mon fils est endormi il a rien vu il s'est réveillé à l'entracte il m'a gratté un muffin au myrtille et une fois qu'il a eu son muffin au myrtille il a redormi tout l'acte 2 donc il a rien vu de Casse-Noisette voilà,
mais tu t'as aimé toi t'as passé un bon moment
après je suis en galère parce qu'il faut que je le tienne et tout mais c'était canon c'était très réussi.
Camille Combal
bonsoir
est devenue trop lisse.
Non, je crois que j'ai toujours été. Je sais pas si je le suis trop. Non, mais je crois que j'ai.
Est-ce que tu penses qu'il y a, tu sais, il y a peut-être des choses même qu'on s'interdit quand on est aussi à la tête d'émissions mainstream comme ça. Est-ce que il y a même des choses que tu peux te censurer ou te poser des questions sur ce que tu as le droit de dire ou faire?
Je vois, parce que forcément, je comprends que ce soit un trait de personnalité où on se dise, ah, il est comme ça. Mais je suis comme ça dans la vie. C'est-à-dire que je suis vraiment dans la vie, il faut savoir que je suis réellement une serpillère. C'est-à-dire que vraiment, moi, je suis en soirée.
C'est pas ce que j'ai dit, hein.
Mais moi, je te le dis, dans la vie, s'il y a quelqu'un, tu sais, on dit toujours, monsieur ou madame sans gêne, oh, il dit tout ce qu'il pense, lui. Mais moi, ces gars-là, je suis incapable d'être ce gars-là.
C'est-à-dire je suis comme toi.
Mais je peux pas. Le gars va mal me parler toute la soirée. Je vais dire, mais t'as raison. Et je vais rentrer chez moi dans la voiture. Je vais dire, mais en fait, c'est ça que j'aurais dû répondre en Amélie Poulain, tu vois. Et non, c'est pas vrai. Dans la vie aussi, je suis incapable de confronter quelqu'un et de lui dire, en fait, ce que t'as fait là, c'est pas dingue, gars, parce que c'était pas fou. Je suis incapable de faire ça. Je suis une serpillère.
Est-ce que tu te sens parfois imposteur à Paris? Paris, le show business. Est-ce que t'es à l'aise dans cette ville ou pas?
Non.
Toi qui viens pas de là justement et qui maintenant a l'air d'être installé ici, est-ce que c'est t'y es bien?
Moi je suis très heureux à Paris, je me verrais plus vivre ailleurs parce que j'ai fait ma vie, parce que j'ai mes repères, j'ai mes amis aussi qui sont pas forcément du métier, mais après je suis pas quelqu'un de mondain, je suis pas quelqu'un que tu vas croiser, je sais pas si t'en fais Mehdi, mais on s'est jamais croisé à une soirée, à un événement, non. J'en fais pas du tout, très sincèrement ça m'intéresse pas, et il se passe un truc un peu comme au Boom en 4e, c'est qu'à force de pas y aller, on ne m'invite plus, mais du tout.
Mais je pense qu'il y a des gens qui continuent à y aller pour continuer à être invité en fait. Je pense que c'est un cercle comme ça, vertueux ou vicieux, au choix. Pour être invité, il faut y aller en fait, effectivement.
Mais gros, on m'invite plus à rien, mais réellement, il peut y avoir une soirée TF1, on me convie même plus en se disant, attends, il ne fait pas. Donc j'en fais pas, non, je suis plus des soirées raclette à la maison.
Tu as déjà été au bord du burn-out?
Alors, je vais te dire un truc, c'est que là, on a commencé la rentrée fin août, début septembre, et j'ai réservé mes vacances d'été. Donc, est-ce que je suis pas en plein burn-out finalement?
Ah, t'as déjà réservé les prochaines vacances?
Les prochaines vacances d'été. Donc, quand en septembre, tu sais où tu pars l'été, peut-être que je suis les deux pieds dedans.
C'est vrai ou pas?
Non, mais je pense pas. C'est plus. C'est plus la charge mentale de plein de choses. Ouais. Mais vraiment, vraiment. T'imagines à quel point on est, toi et moi, des privilégiés, là, de faire ce qu'on voulait faire quand on était enfant. Moi, j'ai vécu avec mes parents qui n'ont pas eu trop le choix du métier qu'ils faisaient, qui ont galéré, qui se sont cassés le dos à faire leur travail. Ils étaient restaurateurs. Franchement, c'était un métier pénible. Et En vrai, c'est pas toujours facile parce qu'il y a de la pression, il y a plein de choses. Mais quand même, on est des privilégiés, ça emporte sur le reste. Donc, burn-out, non. Peut-être que j'arrêterai un jour, mais pour l'instant, franchement, je prends le kiff de et la chance que les gens me font d'allumer leur télé et de m'accepter dans leur salon. C'est dingue de le dire, c'est fou.
Camille Combal est avec nous jusque 23h. Alors, il y a quelque chose d'important. On parle de la radio, de la télévision, mais c'est aussi la pièce, la lettre.
La lettre, exactement.
Alors, ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Pourquoi ça arrive maintenant ? Et qu'est-ce qui t'a motivé à mener ce projet ?
Alors, j'ai eu la chance d'avoir des propositions pour le cinéma, pour d'autres choses depuis quelques temps, mais avec le planning que j'ai, c'est difficile de le coïncider. Quoi. Il y a un film qui va se tourner en Belgique, et moi je leur dis, bah non, moi je fais Danse avec les stars, tous les vendredis, je ne serai pas dispo, c'est un peu compliqué. Donc là, il y avait cette occasion-là. Moi, je suis quand même monté à Paris pour faire ça à la base. Moi, à la base, je suis monté à Paris pour jouer, ce qu'on disait tout à l'heure.
Tu viens des comédie clubs, enfin, c'est ça le début de ta carrière.
Ouais, c'est ça, c'est les scènes ouvertes, tout ça. Donc c'était le tout début, et je commence à avoir envie de revenir un petit peu là-dessus. Et j'ai eu la chance qu'on me propose cette pièce qui est super cool, La Lettre, avec Maxime Gasteuil, Charlotte Gabry et Jean-François Quéré, où on est une vraie bande de potes et on va se retrouver sur scène à défendre une bande de potes. Et donc le projet m'a plu. Et après, c'est moi qui ai fait en sorte que ça. J'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai dit, bah, non, je vais faire ça. Et en fonction, on va voir ce qui peut rentrer dans mes plannings en fonction de ce projet-là. Mais je priorise ce projet-là et la scène, quoi.
Est-ce que c'est. Parce que, effectivement, tu es monté à Paris pour ça. Ça fait quelques années que tu fais d'autres choses, de l'animation, de la présentation. Est-ce que là, tu dois réapprendre le jeu ? Est-ce que c'est un stress particulier ? Comment tu appréhendes, justement, cette étape dans ta vie ?
What ? Mais c'est même pas que c'est une pression. C'est une énorme pression. Bien sûr, c'est vraiment. Là, tu sors de ta zone de confort, quoi. Tu connais cette phrase, hein ?
Bien sûr, mais c'est vrai.
Ah, ben là, vraiment. Ouais, là, comment te dire ? Vraiment, là, on va y être. Donc, il y a de la pression. En même temps, c'est très cool parce qu'on commence déjà les répètes. On a aussi un regard sur le texte. Donc, on commence à bosser. Quand tu stresses, le mieux, c'est de travailler. Tu ne peux rien faire d'autre.
C'est comme ça que tu te rassures.
Bah, c'est comme ça que tu te rassures. Ouais. Et donc là, on est là, on le travaille. On est cool. On va partir tous ensemble une semaine pour faire que jouer la pièce, s'amuser, tout ça. Et qu'on soit prêt pour décembre au Casino de Paris. Et donc voilà. Mais oui, c'est un moment de stress. Mais je trouve ça trop cool aussi d'aller à des endroits où bah, forcément, il y a un peu d'inconfort et un peu de stress.
Est-ce que tu avais besoin justement aussi peut-être de te remettre en question quelque part, de te re-challenger dans un moment où effectivement, tu enchaînes les projets qui ont l'air d'être remplis de succès. C'est important pour toi de te remettre en position un peu d'inconfort ?
Je crois qu'il y a de ça. Ce n'est pas tellement la volonté d'être dans de l'inconfort. C'est plus avoir le courage d'y aller. Parce qu'il y a plein de fois aussi où je dis « Mais non, mais en fait, je ne peux pas parce qu'en fait, mardi, j'ai ma singer. » Et en vrai, ça aurait pu. Mais en fait, il faut du courage. Hein. Franchement, il y a beaucoup de courage là-dedans d'aller voir si dans ce domaine-là, on va pouvoir être compétent. Puis je suis à côté de comédiens vraiment vécus, qui ont beaucoup d'expérience. Mais j'y vais avec plein d'envie. Mais ouais, il m'a fallu un peu de courage pour y aller. Ce n'est pas simple.
Est-ce qu'il y a encore du stress quand tu animes un prime ? Ou aujourd'hui, c'est justement quelque chose que tu maîtrises. J'imagine que tu peux avoir des stress sur des petites choses, de là, est-ce que les choses vont être prêtes. Mais est-ce que toi, tu te sens encore stressé ou non. Pas du tout
Non, ouais, plus du tout. Mais j'ai jamais vraiment stressé parce que, tu sais, c'est... En fait, c'est d'être soi-même, en fait. Donc, à la fin, bon, bah, t'es toi-même. Vraiment, moi, je suis le premier à dire, franchement, il y a des fois où c'est cool. Des fois, je suis nul, mais comme dans la vie, quoi. Des fois, t'es expert comptable, tu sais qu'il y a des jours où tu vas être super en comptable, puis il y a des jours où t'es pas dedans. Bon, bah, c'est la vie. Moi, j'accepte ça. J'essaie juste de faire du mieux que je peux. Donc, j'ai vraiment... Pour le coup, franchement, pas du tout de stress d'animer un direct ou quoi que ce soit. Parce qu'à la fin... À la fin, c'est juste de faire en sorte que l'émission plaise aux gens et de faire le lien avec tout le monde. Donc ça va, je le prends en détente.
Comme ce n'était pas forcément ce pour quoi tu étais destiné, à quel moment tu as compris que tu étais un bon animateur ?
Ah, je ne suis pas sûr d'être un bon animateur, franchement.
Tu ne penses pas ?
Je ne sais pas si je suis vraiment sincèrement un bon animateur. Parce que je ne sais pas si j'ai tous les codes qu'il faudrait. Déjà, j'ai une particularité, je pense, si je ne regarde jamais la télé. Je n'en ai pas du tout la télé, je ne la regardais pas avant. Par exemple, j'anime Famille en or. Je n'ai jamais vu un autre animateur faire Famille en or.
T'as même pas fait les devoirs de regarder.
Non.
Ok.
Non, non. Et je me regarde jamais. Je me supporte pas. Donc je me regarde absolument jamais.
Donc ça veut dire que c'est beaucoup d'instinct en fait. C'est toi et tel que tu le sens. T'as un pitch d'émission et c'est t'appréhendre la chose de manière très instinctive en fait.
Ouais, en fait j'y mets tout mon cœur pour que ce soit cool et de me dire surtout. C'est divertissement, c'est-à-dire qu'en gros, parfois, forcément, il y a du direct, il y a 200 personnes, il y a du stress, il y a des gens qui stressent aussi de ce qu'ils vont faire dans l'émission. Et moi, à la fin, quand même, à la fin, on est là pour divertir les gens. Ça reste un divertissement. Tout est cool. On est tranquille. Ça va bien se passer, quoi. Et si ça se passe mal, bah, so what? On va dire que ça s'est mal passé. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que quand quelque chose se passe mal, de ne pas le dire. Mais ça vaut dans la vie.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? T'as un truc, il s'est passé un mauvais délire, bah tu dis, bah écoute, voilà ce qui vient de se passer. En vrai, il aurait dû arriver de là, bah il est arrivé de là, bon, bah, c'est pas si grave, on va aller là.
Mais c'est pas cool. Très grave,
c'est pas très grave,
ouais,
et
ouais.
C'est cool. Le pire, c'est s'il arrive du mauvais côté, que t'essaies de le cacher, on voit que c'est mal à l'aise, bah c'est le pire.
Ouais. Et alors, parce que on disait au début, toi t'as commencé effectivement les scènes ouvertes, est-ce que tu pourrais aussi avoir envie de revenir, enfin de venir sur scène, de présenter un spectacle, un stand-up, du one-man show, quelque chose que tu pourrais avoir envie de faire?
Je joue un peu, des fois. Je vais dans les comédie clubs.
Tu le fais encore aujourd'hui?
Ouais.
Ok.
Ouais. Là, j'ai pas pu le faire là depuis. Bah, tu vois, ça passe vite. Depuis octobre, j'ai pas pu. Mais ouais, de temps en temps, j'écris. J'ai 5 minutes et je vais avec des copains et on joue un soir. Mais c'est jamais prévu. On débarque. Enfin, je débarque avec un pote à moi qui fait de la scène et je fais ces 5 minutes là.
Ça te fait du bien justement de faire ça.
J'adore ça. Et parfois, c'est complètement. Claque. Souvent, c'est complètement éclaté, mais de ces 5 minutes, il reste une minute cool. Il y a un truc que je garde, je dis, ah, là, il y a une bonne piste, je la retravaille. Parfois, ça termine avec un bon 5 minutes, parfois, je repars de zéro.
T'avais croisé qui à tes débuts, toi, quand tu commençais justement ces scènes ouvertes?
Le tout début où le Paname a ouvert, c'était Nawel Madani, c'était Mathieu Madénian, qui on avait? On avait Donald Jacksman.
Ouais.
C'était vraiment le début du Paname. On était là avec Karim, qui est toujours en place aujourd'hui, qui gère Michou aussi aujourd'hui, que j'embrasse fort. Et Karim, c'était vraiment... C'était le tout début, on était payé au burger, même pas au chapeau. Si on allait jouer, et après on avait le droit de manger un burger après avoir joué. Et le meilleur, c'était les soirées été du Paname où ils disaient, les gars, là on fait spécial, on fait un peu de monde en terrasse et on joue sur la terrasse, on joue sur une estrade sur la terrasse. Je dis, mais je vois pas l'estrade, là c'est la palette là. Et en fait, c'était réellement une palette posée par terre, un micro, et on jouait là. Super expérience, mais avec le trafic qui passe, et tu es obligé d'arrêter ta blague parce qu'il y a un Renault Trafic en train de passer dans la rue, et tu reprends ta blague après le Renault Trafic, c'est extraordinaire.
Ouais, et ça, finalement, c'est peut-être un moment de ta vie où ça te manque un peu. En tout cas, ce côté scène ouverte, le côté finalement refaire des vannes sur scène.
C'est surtout qu'il n'y a rien, il n'y a aucun art que j'aime plus.
Ok.
Que l'art du stand-up.
Okay.
C'est ce que j'aime.
C'est ce que tu regardes beaucoup aussi, même toi, dans ton... en privé.
Je ne fais que ça. C'est-à-dire, je ne peux même pas te dire, je crois qu'il n'y a rien que je n'ai pas vu. C'est vraiment c'est ma passion, quoi. C'est ce que j'aime le plus. C'est ce que j'aime. Il y a tellement de gens qui ont du talent en France, sur France Inter. Les humoristes que vous avez, évidemment, allez les voir d'ailleurs. Ils jouent sur scène, pareil, dans des petites salles, dans des grandes salles, dans des salles moyennes. Mais allez les voir. C'est là que vous verrez vraiment leur art. Ils font des chroniques, mais leur art, c'est sur scène. C'est extraordinaire.
Qui est pour toi le ou la goat du stand-up? Tout pays confondu, hein, ça peut être les États-Unis. Est-ce que t'as quelqu'un que tu regardes plus que les autres?
Moi, tout pays confondu. D'accord. Le meilleur. Intouchable.
Tout pays confondu.
C'est Roman Frécinet.
Ah ouais?
Ah ouais. Tu mets les Américains, tu mets qui tu veux, les Québécois, il n'y a personne qui est dans la ligue de Roman Frécinet. Il est au-dessus, il vole au-dessus de tout le monde. Pour moi, c'est extraordinaire d'intelligence, de finesse, de rythme. Il a quelque chose quand même, Roman, c'est quelqu'un d'autre, ferait son spectacle. Tu comprendrais même pas, tu dirais, mais ici, c'est pas drôle. Mais Roman, tout est intelligent, les choses sont drôles. Les sujets, c'est des sujets qui n'ont jamais été abordés nulle part. Il va aller chercher un truc. Et tu dis, mais évidemment, pourquoi on n'a pas parlé de ça avant? Bah, c'est du génie.
Roman Frécinet, le GOAT, alors, selon toi?
Pour moi?
Ouais, c'est très bien.
GOAT, parfait. Absolu, intouchable.
Je propose qu'on écoute un deuxième morceau. Et tu vas voir, on est très subtil. Comme tu animes Masklinger, on va jouer Mask Off de Futur.
Oh, pas mal.
Voilà.
Bien vu.
Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est surtout, c'est un prétexte. C'est un prétexte
ça
pour...
C'est un brainstorm, France Inter, hein.
Ouais.
Hein, bien, sûr,
bien sûr, c'est un prétexte pour écouter ce gros classique qui est sorti, je crois, en 2017, je crois. Mask Off de Futur. Call it how it is. Hendrix. I promise it's swag. Let's bet it. Yo. Percocet. Miley Percocet. Percocet, Miley Percocet, rep the set, gotta rep the set, chase a chick, never chase a bitch, chase no bitch. Mask on, fuck it, mask on, mask on, fuck it, mask on, Percocet, Miley Percocet, chase a chick, never chase a bitch, chase no bitch. 2 cups, toast up with the game, from food stamps to a whole nother domain. Out the bottle, yeah. I'm a living proof, super. Ain't compromising, half a million on the coupe, gang, gang. Drug houses, looking like Peru, whoa.
ask about me. I'm gon' bust a move. Red James, 33 chains. Ocean now, cruising Biscayne. Hit fire, top off. That's a liability. Hit the gas, boosting my adrenaline. Be it fire, Percocet, Molly Percocet. Be it fire, Percocet, Molly Percocet. Be it fire, represent, gotta represent. Gang, gang, chase a chick, never chase a bitch. Be it fire, mask on, fuck it, mask off. Be it fire, mask on, fuck it, mask off. Be it fire, Percocet, Molly Percocet. Be it fire, chase a chick, never chase a bitch.
Don't chase no bitches.
Photo maybe, photo. I drive anything, buy my range, make them go insane, My guillotine, drink from Melazine, taking beams, go to those extremes,
let's go,
Parliament, Calamari wins, Parlay in Vegas, we was in attendance,
let's go,
before the business, Theodore lenses, more prescriptions, focus on the mission,
put my
intermission,
hold on,
never take a break,
we can't pull on,
switch states, switch down far and place,
speech,
ain't no way, ain't no fucking way,
no,
we come to play. We didn't come to play.
No,
rock the bank. We gon' rock the game. Again, they game, we game.
Gang,
but they are not the same.
We been
Percocet, Molly Percocet,
be it fine.
Percocet,
Molly Percocet,
be it fine.
Represent,
gotta represent.
Gang, gang,
chase a chick,
chase.
Never chase a bitch.
Be it fine.
Mask on, fuck it, mask off.
Be it fine.
Mask on, fuck it, mask off.
Be it fine.
Percocet, Molly Percocet,
be it fine.
Chase a chick,
never
chase a bitch.
Be it fine.
Mask on, fuck it, mask off. Mask on, fuck it, mask off. Mask on, fuck it, mask off. Gas gun, never night off.
Futur avec Mask Off, bas les masques évidemment, en hommage, en référence à notre invité du soir, Camille Combal.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Alors Camille, on l'a dit, il y a la lettre qui va arriver. Cette pièce.
La pièce de théâtre au Casino de Paris, bien sûr.
Exactement. Et donc, tu fais partie de ces animateurs, même si tu ne dis pas être un très bon animateur, beaucoup de gens seraient en désaccord avec toi, mais en tout cas, qui vont jouer la comédie. Et je me suis dit, ce serait intéressant de parler de quelques animateurs dans l'histoire de la télévision qui ont eux aussi joué la comédie. Il y en a que tu.
Actuel ou ancien ? Parce qu'on a.
Actuel.
Actuels. Bon, ça va.
Tous les actuels. Et je vais commencer en parlant d'un collègue. On l'oublie peut-être, mais à la fin des années 90, Nagui a tenté absolument un vrai virage cinéma. Et on va parler d'un film qui s'appelle Une femme très très amoureuse, qui sort en 1997. Il joue un dessinateur de bande dessinée pris dans une vraie comédie romantique. Il partage l'affiche avec Christina, je ne veux pas écorcher son prénom. Et il est filmé par Ariel Zetoun, réalisateur entre autres de Yamakasi et de Bimboland. La filmographie est complètement folle.
Je rêve. Vous êtes bien?
Oh oui, t'as. Et quand on vit en jeu? To you?
To me? Comment que yes? Et moi? Ça va?
Tu es pas des mots qui me choquent des photos. Mais ok.
Non, pas.
T'avais pas souvenir de ce film ?
J'ai aucun souvenir. J'espère juste qu'il jouait pas avec ses costards d'animateurs des années 90.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que les costards, ils étaient durs, Nagui.
Alors je crois que si. Mais c'est vrai que c'est aussi peut-être un moment, tu sais, où il y avait, dans les années 90, toi qui as grandi aussi dans les années 90, parfois tu sais, une forme de hiérarchie entre la télévision et le cinéma. Même on compare, tu sais, les séries télé avaient moins bonne presse qu'être acteur de cinéma. Parce qu'il y avait aussi peut-être, on cherchait une forme d'être anobli en passant au cinéma. Est-ce qu'il y a aussi chez toi peut-être la volonté d'être pris au sérieux en jouant la comédie ? Parce que quand tu es animateur, est-ce que tu te sens peut-être un peu moins pris au sérieux qu'un comédien de cinéma ?
Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que dans le métier, il y a quelque chose entre le cinéma, la télé, il n'y a pas trop le mélange des genres et tout, ce que j'entends tout à fait. Ce qu'il n'y a pas d'ailleurs cité tout à l'heure aux États-Unis, la plupart des animateurs de Late Show sont des gars qui ont eu énormément de succès au cinéma.
On va en parler, exactement.
Et qui ont été humoristes et qui ensuite viennent porter une émission.
Bah, y a ce côté aussi où c'est peut-être plus simple d'avoir plusieurs étiquettes là-bas. C'est un peu un cliché de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de stars américaines qui sont chanteur, acteur, comique, Jamie Foxx, je pense à lui, des Will Smith, enfin, il y a beaucoup de profils comme ça aux États-Unis.
Moi, je suis d'accord. Mais tu sais, moi, j'ai pas ça. Parce que déjà, ce qui me plaît, c'est la scène, vraiment, ouais. Même davantage peut-être que le cinéma et que le reste. Et j'ai la chance aussi de jouer dans des séries, mais vraiment d'être sur scène, c'est ça qui me passionne. C'est ça que j'aime aller voir. C'est vraiment, j'aime trop ce moment okay. Où la lumière commence à s'éteindre. Le gars, le choix de musique qu'il a fait avant de monter sur scène, ça raconte déjà quelque chose. Bref, j'adore. Et après, je peux pas te donner tort sur ce côté-là, mais alors moi, ça ne m'impacte pas du tout.
Pas du tout.
Parce que tu sais, à la fin, qui décide qui est dans le coup, qui décide qui est in, qui décide qui est hyper sympa en ce moment, c'est 4-5 personnes. On sait qui c'est ces gens-là, puis dans 5-6 ans, ça en sera d'autres, et qui décideront, bah vous, en fait, vous êtes plus cool, c'est fini, c'est eux maintenant qui sont cool. Et alors moi, si tu savais ça, mais ces 5 personnes-là qui décident, ça ne me gêne pas du tout. Moi, j'ai mon truc, j'adore. Si je peux amuser les gens rue de Bretagne, c'est cool, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi d'aller amuser les gens en Bretagne, tu vois. Et j'aime ce côté
bonne
mélangé
punchline, ça. Bonne punchline.
De tout. Mais vraiment, ça m'intéresse autant d'être à Paris qu'ailleurs. J'ai aucun snobisme. Et les gens qu'on a, franchement, moi, c'est pas des gens que je fréquente, c'est pas des gens qui m'intéressent spécialement. Donc moi, je suis hyper open sur tout le monde.
Très bien. Alors, autre cas, on a un peu évoqué son tout à l'heure, c'est Jimmy Fallon, qui avant d'être le roi du Tonight Show, est d'abord un mec du Saturday Night Live, qui est donc un humoriste, comme tu l'as dit, mais aussi un acteur. Il avait justement dans un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fever Match, je crois que c'est Terrain d'entente en français. Il joue un fan obsessionnel des Red Sox, pris dans une comédie romantique, encore une, avec Drew Barrymore. C'est une comédie populaire, mais là, il joue le premier rôle. Et d'ailleurs, ça, c'est intéressant, parce que c'est le film sort justement qu'il devienne un immense animateur. Donc, c'est aussi une époque où Jimmy Fallon hésite encore entre est-ce qu'il est un comédien, peut-être, est-ce qu'il est un présentateur, ou peut-être que pour lui c'était naturel justement de faire les deux. On en parlait Jimmy Fallon tout à l'heure, est-ce que c'est quelqu'un que tu regardes aussi aujourd'hui? Parce que moi j'ai un peu le sentiment que peut-être pour nous, en tout cas quand on n'a pas une connaissance de tous les late shows américains, c'est celui qui est peut-être le plus identifié aujourd'hui, en tout cas dont on voit beaucoup les séquences sur les réseaux, sur YouTube, etc.
Parce qu'il existe beaucoup sur les réseaux,
exactement.
Sur TikTok, tout ça. Il
c'est pas forcément celui qui fait plus d'audience
dehors,
là-bas, ouais. Je sais pas, mais en tout cas il est très présent sur Internet, quoi.
Exactement, et donc, moi je regarde pas spécialement les late shows ou quoi, okay. Parce que tu sais, il y a aussi des extraits qui sont sortis. En général, tu as le bon sketch du soir,
oui.
Mais il faut pas oublier qu'il y a un bonjour,
bien
y a
sûr,
un partenariat.
Un monologue. Ouais.
Ah ouais, ils citent l'imprimante machin parce qu'ils ont un deal avec eux qu'on n'a pas en France où ils peuvent faire vraiment
vrai.
De la pub directement dans la mission. Faut pas croire, un late show c'est quand même une heure. Tout n'est pas génial tous les soirs dans
heure
de tout le monde, et c'est bien normal d'ailleurs. Donc non, c'est pas des gens que je vais aller surconsommer, mais en tout cas, ouais, Jimmy Fallon, c'est celui qui ici a fait notamment des sketchs sur Emmanuel Macron.
Tout
donc
à fait.
C'est ce qui fait aussi qu'il s'est énormément exporté. Mais après, Jimmy Fallon, pour en avoir parlé avec lui, il a arrêté le cinéma. Il avait énormément de succès au cinéma, mais en fait, il supportait plus le temps d'attente au cinéma.
Ah, ouais.
Il dit, j'en pouvais plus de tourner 3 minutes utiles par jour. Et c'est vrai que quand tu viens, j'imagine, du SNL, quand tu as commencé à faire de la télé, il y a aussi un truc un peu frénétique et un peu OK, on fonce, on est toujours en train de créer, d'aller en avant, qui, je pense, l'anime. Et tout d'un coup, tu t'arrêtes en fiction. Et évidemment, c'est un temps long parce que c'est génial, parce que tu crées une œuvre.
Bien
sûr. Ça n'a plus rien à voir.
Finalement, ça se rapproche de la scène, en fait. Ce que tu racontes, le côté frénétique de l'animateur.
Bien sûr.
Il y a quelque chose qui est proche de ça, en fait.
Bah, chacun a son rythme. Mais ouais, sur scène, bien sûr, tu as une heure pour garder les gens avec toi. Et même quand tu crées des moments. Comment dire, un peu plus intime, un peu plus relâche, faut pas le faire trop loin, faut pas trop les perdre, parce que les gens, tu les perds vite. Hein.
Alors, et puis il y a un autre cas, on revient en France, le cas Laurent Baffy. Est-ce que tu te souviens de son film?
Les clés de bagnole.
Les clés de bagnole.
N'y allez pas, c'est une merde. Non,
merci,
c'était ça.
C'était annoncé sur l'affiche du film. Il y avait N'y allez pas, c'est une merde, qui est une forme de buddy movie entre lui et Daniel Russo, dans lequel évidemment il cherchait ses clés de bagnole. Et c'est marrant parce que je l'ai vu justement. Il a un podcast maintenant qui s'appelle Coloscopie.
J'ai vu sur les réseaux,
Et il y avait un épisode justement où il parlait de ça, il parlait finalement d'une frustration qu'il avait, il le disait de manière très honnête, d'être un réalisateur en fait, d'être un comédien, qu'il n'a pas pu être, en tout cas pour le moment, mais c'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Et on peut écouter un extrait de ce chef-d'œuvre, je n'ai pas peur de le dire, qui était Les Clés de bagnole.
Claude, moi je pense que quand on a la chance d'avoir un scénario assez fort, on peut y aller.
Et l'histoire, c'est quoi?
Alors, l'histoire, c'est que j'ai paumé mes clés de bagnole.
Combien il coûte ton film?
23 millions.
C'est cher, 23, hein.
Oui, mais c'est important que de les retrouver. Les chevaliers de la table ronde, eh ben, ils cherchaient le Graal. Ben, le Graal, c'est comme une chope.
Ben, c'est pas prêt d'être tourné, cette connerie.
Tu raccordes ton blouson?
J'avais froid, j'ai mis ça 2 minutes.
Ben, on tourne, là.
Ben, je sais bien qu'on tourne, Daniel.
Ben, attends, excuse-moi, mais... T'es en faux raccord.
Les raccords, je les emmerde, OK?
Ben,
Moi, je suis désolé, hein. Moi, je vois un film, je suis un faux raccord. Moi, j'y crois plus, je décroche. Hein.
Mais arrête de m'emmerder avec ça, Daniel. Quand t'as une bonne réplique au cinéma, que ton blouson soit bleu ou rouge. Si la vanne est bonne, elle est bonne, quoi. Point barre.
Bon, un extrait donc des Quais de Bagnole, voilà, film que j'ai pas peur de conseiller, qui est un ovni cinématographique qui me semble intéressant.
Je suis passé à côté, mais je pense que c'était dans ma montagne, vraiment. Oui. Il y a un cinéma quand même dans ma station des Ors, mais je pense qu'on passe Jurassic Park 1 à l'heure actuelle, voire Amélie Poulain, peut-être qu'on vient de le recevoir en VHS, mais je te gâche pas qu'on a peut-être pas eu les Quais de Bagnole.
Camille Courbal est avec nous jusque 23h. Camille,
bonsoir.
Tu adores poser des questions aux gens. Tu adores faire des quiz.
Je suis assez joueur. C'est vrai, je suis un peu un labrador, hein,
j'ai
pas se mentir.
Préparé un questionnaire sur toi. Tu dois bien y répondre.
Alors, c'est que des questions sur moi ?
Sur toi et ta carrière.
Oh, waouh, ça va être rapide.
Il y a un score à la fin. Il n'y a rien à gagner.
Combien de questions ?
6, je crois. Quelque
Six.
Chose comme ça.
Ouais. Est-ce que je pourrais avoir au moins un cadeau France Inter ?
Un verre France Inter comme ça ?
Est-ce que je peux avoir un stylo 4 couleurs France Inter ?
Un stylo 4 couleurs France Inter, bien sûr, on peut trouver ça, évidemment. Évidemment.
Un stylo 4... okay,
évidemment. La direction est là et me dit que oui,
avec grand plaisir.
C'est possible.
C'est possible. Ça passe en charge et produit, ça, hein, compte de résultats.
Qui a gagné ? Alors, on va dire qu'il faut au moins 4 bonnes réponses sur 6, on est d'accord ?
C'est sur mes émissions ?
Bien sûr, c'est sur toi. Il faut 4 bonnes réponses sur 6. Hein. Qui a gagné Danse avec les stars en 2018 ?
Je sais pas. C'est moi qui animais ?
Ouais. 2018, c'est toi, hein ?
2018,
je crois que c'est ta première saison.
C'est ma première saison ?
Ouais.
Qui a pu gagner Danse avec les stars ? Ça doit être Fauve et... Ça doit être Fauve et je sais pas et quel...
Ah voilà, bah non, mais c'est une erreur, puis c'est pas grave.
Quel cata.
Il me semble que c'est... Je te donne la réponse ?
Ouais.
Clément Rémiens ?
Ah, Clément Rémiens, bien
Clément
sûr.
Clément Rémiens. Voilà, c'est pas grave.
Sur une burrata, non, sur une bachata, je me rappelle plus tout.
Comment s'appelle la série dans laquelle tu joues sur Disney+ ?
Ça s'appelle Ghost, Mehdi, je le sais parfaitement.
Bravo, bravo.
Bah,
bonne réponse.
Ça a 6 mois, bah, ça réponse, vraiment, on serait sur un Alzheimer.
J'ai aussi envie de te faire briller.
Bien sûr.
Mais c'est pas le titre exact, hein, Ghost.
Ghost, fantôme en héritage.
Bravo.
Tu voulais m'avoir. Hein.
Bravo. En quelle année tu te retrouves co-animateur de la matinale de Fun ?
La matinale de Fun, d'énergie. J'ai fait Fun.
Ah ouais, bah c'est oui. Ça fait rapidement Fun et t'es co-animateur de la matinale.
J'ai ma mère dans les loges ou quoi ? Comment qui
non,
est au courant de ça ?
T'as pas la, t'as pas ta
alors,
mère,
attends,
mais il y a Redouane qui travaille avec moi et il a plus d'infos que ta mère.
Alors écoute bien, Redouane, j'ai eu mon bac en 2019. Je suis monté à Paris 3 ans après, on est en 2022, donc je fais complètement au doigt mouillé. Je dis
non,
2009. 2000, j'ai eu mon bac.
Qu'est-ce que tu me racontes ?
J'ai eu mon bac en 99. Je suis monté à Paris en 2002. Donc je dis 2005.
C'était 2006.
Mince.
2006. Donc là, il faut faire un sans faute maintenant.
Ça m'énerve un peu, j'ai failli dire merde. Mais j'ai dit mince.
Quel animateur tu as suivi sur Virgin Radio ?
Bruno Guillon.
Absolument. C'est les infos que j'ai en tout cas.
Oui, exactement. On a quitté Énergie ensemble.
Très bien. Tu es supporter de l'Olympique de Marseille, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement. Quelque chose à dire là-dessus ?
Non, j'ai une question pour toi.
Oui, tout à fait.
Qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique de Marseille ?
Meilleur buteur de l'histoire, j'irai sur peut-être Mamad Niang. C'est pas lui ?
C'est un joueur qui s'appelle Gunnar Andersson.
Oh bah non, bah
oui, c'est l'information que je te donne.
Oui, ça, je veux aller vers Kusen, ça.
Non, Gunnar Andersson, qui a joué, je crois, dans les années 60 et qui est une légende du club, qui est le plus grand buteur de l'Olympique de Marseille.
Ouais, je savais pas du tout.
Écoute.
Là, c'est nul.
J'ai une dernière question. À combien de mètres d'altitude as-tu grandi ?
J'ai grandi, ça c'est très simple, le centre station des Ors, il est à 1650, je dirais que mon chalet il est au bord des pistes, mais il est juste dans la première petite station dite Pramouton, donc je dirais 1620 ou 1600.
Bon écoute, j'avais 1700 mais tu sais ça mieux que moi, donc je te l'accorde.
Bah, 1700, on va dire
trois bonnes réponses sur 6, je laisserai la direction décider de
Attends.
Est-ce qu'on te donne quelque chose ?
Ça veut dire que je ne me connais pas assez pour gagner un 4 couleurs ?
J'en ai bien peur.
C'est abominable.
J'en ai bien peur, ce sera un monocouleur.
Ah,
un stylo bleu.
Bon, gardez-le, vous êtes des radoches. Gardez-le.
Bon, on s'écoute tout de suite un morceau de Lola Young, une chanteuse qui vient du sud de Londres. On écoute ça et juste après, on enchaîne avec les recommandations de Camille Combal.
Still love.
C'était Lola Young avec le morceau Dealer.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Je te cache pas que ça me change un peu d'énergie, Mehdi.
Ah, c'est, la playlist est différente sans, ah bah là, sans jugement de valeur.
Là, voilà. Ça fait une heure qu'on est là, j'aurais déjà joué 9 Gims.
Ah, mais attention, il y a des grands morceaux de Gims.
Ah, ben bah, je dis pas, bien sûr.
C'est quoi ton morceau préféré de Gims? Moi, c'est Spider.
Mais attends, mec, je te promets, moi, c'est Spider, mais c'est intouchable.
La manière dont il dit Düsseldorf, pour moi, me rend fou, me rend chèvre.
Même pour les petits trajets, je sors le féfé.
Quelle insolence.
Ça qu'on veut.
C'est fou d'être, d'avoir autant de succès et d'être autant insolent envers tout le reste des Français. Je trouve ça très fort. Je trouve ça vraiment très fort. Alors, tu as des recommandations. Tu as recommandé deux œuvres, notamment le film L'âme idéale.
L'âme idéale, c'est un film avec Jonathan Cohen et Magali Lépine Blondeau. Il est actuellement, il doit rester encore des salles où vous pouvez aller le découvrir. C'est vraiment une comédie romantique. Mais je gâche rien, c'est dans la bande-annonce.
Ouais.
Jonathan meurt très vite dans le film et donc c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui peut rappeler un peu Ghost pour les gars de mon âge.
Patrick
et...
Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg.
La petite scène de la poterie.
Et la scène de la poterie, évidemment. Et donc, ça, c'est les années 90 pour moi.
Ça, là, mais voilà. Tu sais quoi, c'est la première comédie romantique que j'ai vue. J'étais okay. Comme un fou amoureux de Demi Moore dans tout mon corps.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc ce film, je trouve qu'il est... il est vraiment trop réussi, il est vraiment super, et donc allez le voir, parce que c'est un petit, pour moi c'est un petit bijou de comédie romantique, je trouve qu'on en a besoin en ce moment, et je trouve ça très cool, vraiment j'ai passé un super moment avec ces deux comédiens géniaux, et notamment Magali, on va beaucoup entendre parler, c'est une immense actrice québécoise qu'on a vue notamment dans Simple comme Sylvain,
okay.
Qui est formidable, et qui vient maintenant jouer davantage en France, elle a plusieurs projets en cours là, et vous allez adorer cette comédienne, elle est formidable.
Alors, j'ai pas encore eu la chance de voir ce film, mais je suis un grand amateur de comédie romantique.
Ah, moi aussi.
Est-ce que c'est quoi ton top, si t'en as un? Moi, je te donne le mien, si tu veux.
Vas-y, je te dis s'il y en a moi.
Alors, dans les récents, Crazy Stupid Love, pour moi,
génial.
Est meilleure comédie romantique des années 2010. Je pense que Quand Harry rencontre Sally est un classique ultime. C'est les deux que je te donne, voilà.
Moi, je vais être un peu peut-être plus classique, mais pardon. Qui peut s'asseoir à notre table et dire que Coup de foudre à Notting Hill, c'est pas un top 3.
Extraordinaire.
Mais il y a tout dans ce c'est libraire. Vrai. Julia Roberts.
Beaucoup d'amour pour Hugh Grant aussi, hein, qui joue bien l'anglais un peu lambda. Je trouve qu'il joue très très bien.
Et qui joue ce gars, ce libraire qui tombe face à la plus grande star qu'on a tous imaginé un jour. Tu vois, et se dire, mais yeah, et ça lui arrive, c'est formidable. Avec, j'oublie le nom de son colocataire, formidable.
Rhys Ifans, l'acteur.
Allez,
Rhys Ifans.
Ouais, coup de foudre à Notting Hill, on cherche pas ailleurs.
Très bien.
Bien sûr. Et après, je dirais Fast and Furious 4.
Attention, je suis un grand fan des Fast and Furious. À partir du moment où The Rock rentre dans la franchise, je trouve que la franchise devient extraordinaire. Mais bon, ça c'est.
Mais c'est pas une comédie romantique.
Pas du tout, pas du
à
tout.
À part si vraiment on aime les Xantia, mais sinon, c'est pas.
Oh, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Xantia dans Fast and Furious. Hein. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup de respect pour cette franchise. Et une pièce aussi, Oublie-moi.
Oublie-moi,
que tu as recommandé. Ouais.
Ils ont vraiment pas besoin de moi, mais je le fais quand même. Je crois qu'ils sont à 4 Molières, si je dis pas de bêtises. En tout cas, okay. Ils ont pas mal de Molières.
Ça se passe bien.
Ça se passe plutôt bien pour eux. Ça fait des belles cheminées. Donc, c'est un sujet extraordinaire qui fait écho, pas pour plein de raisons à ma vie personnelle, mais c'est sur un jeune couple fou amoureux. Et un des deux, malheureusement, a des troubles d'Alzheimer qui découvre au fur et à mesure. On le découvre dans la pièce. Et je n'avais jusqu'alors, j'ai beaucoup ri au théâtre, on en a parlé. Ouais. J'ai eu la chance de voir plein de spectacles et des pièces hyper drôles. J'ai pleuré, mais... Tu sais, quand même tu pleures un peu trop et que tu sors les Lotus à l'Eucalyptus, c'était déjà au troisième et ils sont remplis, c'est magnifique. Franchement, la comédienne qui est également metteuse en scène, c'est formidable dans la mise en scène, dans l'idée, dans le sujet, comment c'est traité, ça nous amène tout doucement là où ça veut nous amener. Bon, c'est pas pour rien. Comme quoi, il s'est pas trompé, Jean-Baptiste Poquelin, en remettant 4 Molières. C'est formidable. Franchement, si vous pouvez être à De la Bruyère, je crois que c'est archi plein, mais essayez d'y aller, c'est formidable.
Jonathan. Pourquoi j'ai dit Jonathan? Parce que j'ai lu Jonathan Cohen, en fait, bah, l'idéal. Camille, pardon, ouais. C'est l'heure de la question qui tue.
Bien sûr.
Eh oui.
Dis-moi tout, Jean-Louis. Pardon, Mehdi. J'ai lu Jean-Louis.
J'ai vu mes fiches. Tu préfères que l'OM soit champion de France?
Je préfère ça. Ouais,
ah, t'es sûr?
Vas-y.
Ou que la lettre soit un immense carton. Tu dois choisir.
Alors, je vais être honnête.
Ah, il faut être honnête, oui.
Je vais être très honnête. Je vais choisir la lettre pour une raison simple. Et le peuple marseillais qui écoute France Inter nombreux, je le sais, vont être d'accord avec moi. Je pense que... J'aime pas être dans cette énergie-là. Je pense que c'est mort pour le championnat cette année. Là, on est un peu décroché. Et ça va commencer à vraiment accélérer devant. Plus on est encore en train de vendre un peu des joueurs. Bref, je pense qu'il y a quand même, j'espère, plus de chances qu'on remplisse le Casino de Paris et le Palace juste après, que l'OM soit champion cette année. Mais croyez-moi, mon sang, il est bleu et blanc et on va y arriver, on va le redécrocher, ce titre.
Donc là, en tout cas, la pièce, la billetterie est ouverte et c'est tourné partout en France.
Bah, on démarre au Casino de Paris du 8 au 13. Ouais. Ensuite, il y aura une petite résidence à Paris. Puis surtout, on tournait, comme je disais, on a trop envie d'aller partager ça avec tout le monde en France.
Et toi, justement, cette tournée-là, comment tu vas réussir à organiser ça dans ta vie extrêmement chargée? Est-ce que ça veut dire que tu vas mettre des choses entre parenthèses, tu vas faire des pauses ou tu vas juste avoir des journées à rallonge?
Gars, j'en ai aucune idée. Je vais te dire la vérité, non. Je vais évidemment devoir mettre des choses en pause, mais avec tout ça, bien sûr, ce que je veux surtout, c'est bien prendre soin de mon fils, bien prendre soin de ma femme, pouvoir profiter des deux aussi au quotidien ou le plus souvent possible. Et donc ça, c'est une place que je ne vais pas négliger ça. Pour le reste, ça restera quand même quelque chose d'essentiel pour moi. Donc, c'est vraiment, dans tout ce qu'on dit des projets, on parle beaucoup de travail, mais il y a quand même ce côté perso qui, moi, est très important pour moi et je veux continuer de quand même prioriser ça absolument. Donc, on va voir. Et le reste, je ferai des choix.
Est-ce que c'est compliqué, justement, de pas se perdre quand on a autant de choses qui sont excitantes, qui te plaisent, de réussir à garder cet équilibre-là? Est-ce que tu arrives sans problème ou est-ce que parfois, il y a des moments où tu as peur, justement, qu'il y ait un déséquilibre entre le travail et la famille?
C'est un truc qu'on partage, c'est toujours pareil. Tu te dis toujours, il n'y a pas assez de temps. Mais on essaie de faire le plus. En tout cas, le plus important, c'est quand je suis chez moi, quand je suis là, j'amène tous les matins mon fils à l'école, comme plein de gens qui m'écoutent, mais j'essaie vraiment de libérer du temps. Quand je suis là à 100%. Il n'y a pas de, attends deux secondes, parce que là, écoute, c'est complètement fou, il y a Pure Média qui vient de poster. Non, pas du tout. Je suis à 100% à ce que je fais, tu vois, et j'y accorde le plus de temps possible. Et puis surtout, j'essaie de ne pas cligner des yeux, quoi, parce que je me dis, on cligne des yeux en deux secondes, on a raté. Là, c'est 4 ans, écoute-moi, c'est le meilleur âge, c'est que kiff dans ma vie. Et je prends, mais tu sais, même pas comment. Des fois, on me dit, mais ça va, t'arrives à gérer. Mais je dis, mais c'est mon plaisir de le regarder faire tomber des caplas. Pardon, mais ça bat tout le reste.
Avoue que c'est mieux à partir de 4 ans.
Mais
c'est un bel âge, là.
Je suis le premier à le dire. Ah, 2 ans et demi, 3 ans, c'est là où tu commences à. Il y a le dialogue, il y a des trucs qui se créent. Tu commences à avoir il commence à avoir son caractère, à dire, mais viens, on fait ça. Non, je veux pas.
Exactement.
Et je trouve ça extraordinaire. T'as un vrai échange. Mais moi, si je pouvais, je l'amènerais tout le temps avec moi. Il serait déscolarisé. Il serait là avec nous, il serait tout le temps avec moi.
Est-ce que ton fils te regarde à la télévision ou...
Alors, il vient me voir des fois à la radio, tu vois, comme si on était là, mais sinon, en revanche, non, je veux pas du tout qu'il vienne sur les plateaux télé, les endroits où on peut être applaudi ou quoi, des choses comme ça, j'ai pas du tout envie qu'il soit dans ce délire-là. Faut quand même savoir que ma nièce, Alice, jusqu'à ses 5 ans, m'appelait Camille Combal. Tout ce que je te dis est vrai. Donc, il y a un moment donné où il faut quand même. Donc, je préfère essayer de le préserver le maximum de ça. Mais quand c'est un truc de métier comme là, mais quand il y a beaucoup de monde et tout, j'essaie de faire en sorte qu'il ne soit pas trop sollicité par ça, quoi.
Camille, c'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui.
J'ai vraiment un très bon moment. Je te remercie de m'avoir invité vraiment sincèrement. Merci à France Inter. Je me suis régalé avec toi.
Eh ben, moi un peu plus que toi, je pense. J'ai pris un peu plus de plaisir que toi. Mais c'est pas une compétition.
Moi, l'infini plus un.
En tout cas, tu as gagné un stylo bleu. Et ça, c'est ça qui est important.
Merci France Inter, vous me chamboulez ma vie.
C'est normal. Merci à toi et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui était préparée par Alex Lacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'est Selim Guéribi et Guillaume Roux. Merci aussi équipe web et vidéo. Demain, on se retrouve avec Paul Mirabel pour redécouvrir nos émissions. Abonnez-vous sur l'application Radio France.